Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, Notre-Dame-des-Landes, c'est oui ou c'est non ? La France peut-elle à la fois défendre l'accord sur le climat signé à Paris au mois de décembre et promouvoir la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique ? À cette question, Pierre Rabhi, Éric Deluca, Naomi Klein, Jean Jouzel, entre autres, répondent non dans une tribune publiée hier par Mediapart. Au total, ils sont une quarantaine de personnalités à demander au gouvernement de ne pas construire cet aéroport au nom des engagements français en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mais la balle est-elle encore dans le camp de l'exécutif ? Pas depuis que François Hollande a décidé d'en appeler au peuple pour trancher la question. Le 11 février, le chef de l'État annonçait l'organisation prochaine d'un référendum local sur la pertinence du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, sans qu'on sache encore très bien d'ailleurs qui pourra voter et quelle question sera posée. Les arguments des pour et des contre, eux, sont fin prêts. Il faut dire que la région nantaise vit au rythme de ce débat depuis de longues années. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, les impacts environnementaux, économiques et sociaux sont mis en avant pour défendre le bien fondé de chacune des positions. Alors ce sont ces arguments que nous vous proposons d'écouter ce soir, ici à Nantes, dans les locaux de France Bleu Loire Océan. Notre-Dame-des-Landes, c'est oui ou c'est non ? C'est donc notre sujet du jour. Et j'ai le plaisir pour en discuter de recevoir quatre invités. Françoise Verchères, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la coprésidente du collectif des élus doutant de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes l'ancienne maire de Bouguenay, c'est la ville sur laquelle se situe l'actuel aéroport Nantes-Atlantique. Et vous venez de publier un ouvrage aux éditions Timbuktu, Notre-Dame-des-Landes, la fabrication d'un mensonge d'État. Vous êtes donc opposé à ce projet, tout comme votre voisin Michel Mayol. Bonsoir.
Bonsoir.
Membre du collectif naturaliste en lutte. Peut-être voilà. Un petit mot de ce collectif.
Ah oui, tout à fait. C'est une première nationale. On fait à l'école. De même que l'expression ZAD aussi. Donc voilà, c'est face aux indigences et aux insuffisances des études d'impact et des inventaires depuis le 2002 jusqu'à 2012, jusqu'au dossier loi sur l'eau, instantanément, un groupe de naturalistes a décidé de faire une contre-expertise. Et donc, la prise de conscience a été en décembre 2012.
Et ça a été créé à quel moment, le collectif ?
Effectif, janvier 2013, où là, on crée un...
Ne racontez pas tout, parce qu'il faut quand même que je présente les autres invités, puis après on ira dans les arguments des uns et des autres.
D'accord.
Alors vous êtes donc du côté des opposants à ce projet, du côté des partisans, il y a Alain Mustière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'association Des Ailes pour l'Ouest, et vous avez par ailleurs présidé un certain nombre d'institutions, telles que la CCI, puis le CESER, enfin le Comité économique et social et environnemental régional.
Voilà,
et puis notre quatrième et dernier invité, c'est Gilles Bontemps. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien vice-président du Conseil régional des Pays de Loire. Vous étiez en charge des transports. Vous êtes par ailleurs président de l'association départementale des élus communistes. Alors, on va aller, comme je vous disais, dans les arguments pour et contre. Je voudrais pas qu'on passe trop de temps sur cette question de projet de référendum local, mais le chef de l'exécutif nous y oblige quand même un petit peu. J'aimerais faire un rapide tour de table avec vous quatre pour savoir si finalement cette façon de faire, c'est-à-dire de demander aux électeurs, alors on verra bien quel sera le périmètre qui sera choisi, mais de trancher pour savoir si oui ou non il faut faire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît une bonne idée, Gilles Bontemps ?
J'ai eu l'occasion de dire non déjà sur le sujet, pour la bonne raison, c'est que c'est le mépris de l'ensemble des collectivités territoriales qui ont répondu à la demande de l'État. Vous vous rappelez que c'est un aéroport de l'État, c'est pas un aéroport de Vinci. Et donc les collectivités territoriales, depuis de nombreuses années, c'est-à-dire depuis 2002, hein, parce que j'entends des fois des chiffres qui sont un peu bizarres, depuis 2002, c'est vraiment là, le projet a été relancé en 2000, plus exactement par Jean-Claude Guessot, donc c'est voilà. Donc les collectivités se sont prononcées, pratiquement toutes, et en tout cas toutes celles concernées, elles ont décidé d'aider l'État, et au bout d'un processus qui a subi les différentes étapes que doit suivre un grand dossier d'information, infrastructures, en tout cas c'est comme ça aujourd'hui en France, on découvre tout d'un coup que le président de la République s'interroge après avoir perdu beaucoup de temps, etc.
Donc je considère... les procédures ayant été respectées, il n'y a pas eu de déni démocratie, donc il n'y avait
absolument
pas besoin de référendum.
Et je considère que là, c'est un mépris des populations du territoire, c'est un mépris des collectivités, mais rassurez-vous, on va participer à cette consultation.
Françoise Verchères, est-ce que sur la question du référendum, vous partagez ou pas le point de vue de Gilles Bontemps ?
Alors peut-être pas pour les mêmes raisons. Je pense que nous n'avons pas malheureusement en France la culture suisse, par exemple, de la votation citoyenne. Donc proposer un référendum in fine dans ce sujet qui est devenu très conflictuel, très passionnel, ne me paraît pas la bonne manière de sortir du conflit, parce que un référendum pose 1000 questions. Quel est le périmètre? Je suis très stupéfaite d'apprendre que le périmètre pourrait être limité à la Loire-Atlantique, alors que le contribuable national est mis à contribution, précisément, que la Bretagne et les Pays de Loire sont concernés aussi financièrement. Donc quel est le périmètre? Quelle est la question posée? Quel est le temps d'information et les moyens donnés à chaque partie? Tout ça pose énormément de questions et j'ai bien peur que ce ne soit pas encore de la vraie démocratie, mais plutôt une dernière tentative de faire passer un projet dont je pense qu'il est fondé sur le mensonge.
Imaginons que vous puissiez choisir la question qui serait posée, ce serait quoi?
Alors d'abord, la question peut être une alternative. Est-ce que vous êtes pour un nouvel aéroport ou pour une autre solution? C'est très différent déjà de poser une question par une alternative. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre sur ce référendum pour que ce soit la bonne solution maintenant.
Bon, donc pour l'instant, deux invités qui ne sont pas très fans de cette idée de référendum local. Alain Mustière, je rappelle que vous présidez donc cette association des Ailes pour l'Ouest.
Oui, moi aussi je suis un peu étonné de cette proposition du président de la République qui vient avec, comme l'a dit Gilles Bontemps, avec un processus démocratique, qui vient après plus de 160 décisions de justice. Ça veut dire qu'on se fiche complètement de ce qu'a pu dire la justice sur le sujet. Toutes les instances juridique française, conseil constitutionnel, tribunal administratif, enfin tous ont eu à se prononcer. Donc on s'assoit dessus et c'est un peu rigolo.
Est-ce que la population locale a eu l'occasion de se prononcer sur le projet? Oui, il y a eu un débat public qui a duré 6 mois.
Il y a eu un débat public qui a eu lieu non seulement en Loire-Atlantique, mais qui a eu lieu en Bretagne, qui a eu lieu dans les Pays de la Loire. Et donc il a été extrêmement important. Comme le disait Gilles aussi, les collectivités locales ont toutes voté et se sont engagées là-dedans. Et donc on arrive à la fin d'un processus où, au lieu de prendre la décision de dire on évacue, parce que n'oubliez pas que derrière tout ça, si ça existe, c'est parce qu'il y a une ZAD qui est occupée, qui procède par violence auprès des habitants, auprès de la ville, auprès de la gendarmerie, qui casse des voitures, auprès des entreprises. On a un bras armé qui existe.
Et ben moi, s'il y a un référendum, si les gens disent non, on ne veut pas de cet aéroport, il n'aura pas lieu. Et si les gens disent oui à une majorité, ben il aura lieu, il y aura sans doute évacuation. C'est une bonne façon de trancher.
Pourquoi pas le faire tout de suite?
Michel Mayol, est-ce que vous êtes un partisan de ce référendum?
Alors d'abord, ce sera moi, parce que comme je représente un collectif, je ne peux pas, on n'a pas encore travaillé beaucoup là-dessus. Moi, personnellement, non. J'ai beaucoup d'inquiétudes, moi, concernant les modalités. Est-ce qu'il y aura vraiment parité entre les moyens?
C'est-à-dire, vous voulez dire entre ceux qui font campagne pour le oui et ceux qui font campagne pour le non, par exemple?
Voilà. Comment organiser ça? Donc là-dessus, j'ai...
Est-ce qu'il peut aussi y avoir une crainte, peut-être, que... on sait bien, d'ailleurs, la tradition et l'histoire politique française nous l'enseignent, qu'on répond rarement à la question qui est posée dans un référendum. Hein, on pourrait rappeler, par exemple, le général de Gaulle. Est-ce qu'il y a une crainte, justement, qu'il y ait une forme de... de détournement de ce scrutin à d'autres fins que celles qui portent sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes.
Comme ils mettent, enfin, les partisans de l'aéroport mettent toujours en avant la ZAD, les ZADIS et la CAS.
Et puis on continuera à le faire, effectivement.
En même temps, ils existent, les ZADIS, non?
Écoutez, en février, la presse nationale, Nantes-Miassac, l'an dernier, c'était du pipeau. Il y a 15 jours, Rennes-Miassac, c'est du pipeau.
Enfin, c'est... Gilles Bontemps ?
Non, c'est sur la consultation, parce que si vous voulez qu'on ait le temps de parler de l'aéroport, je veux juste dire que les populations, elles ont été aussi consultées depuis de nombreuses années, sous d'autres formes. C'est les élections municipales, ce sont les élections cantonales, ce sont les élections régionales. où dans ce territoire, dans le département notamment de Loire-Atlantique, les sujets n'ont jamais été absents. Ils ont même été dans des programmes. C'était dans le programme, par exemple, des élections régionales de 2010, par exemple, avec Jacques Auxiette. Donc les gens se sont prononcés. Et les gens, par exemple, Europe Écologie, qui n'a pas fait alliance au premier tour, mais qui s'est présenté contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les gens, ils ont été consultés, ils ont répondu. Donc je pense que ça, c'est un élément de consultation beaucoup plus large, mais je ne veux pas développer parce qu'on va se faire avoir par le temps.
Et juste pour conclure juste sur ce sujet, Françoise Verchères, est-ce que mais ça n'est pas ça qui vous inquiète? C'est-à-dire que finalement, les différents scrutins ont démontré qu'il y avait des majorités pour ceux qui étaient favorables à l'aéroport et pas
non,
ceux qui
alors,
étaient contre.
Écoutez, ça ne m'inquiète pas plus que cela, parce que d'abord, je pense qu'il faut que chacun se souvienne du taux d'abstention en France, et je pense que les élus aujourd'hui devraient faire preuve d'une grande modestie par rapport au vote des électeurs. Il y en a beaucoup qui ne se déplacent plus, et ceux qui se déplacent et qui votent ne votent pas un blanc-seing, et ils ne votent même pas pour la totalité d'un programme. Parfois, malheureusement, ils sont obligés de choisir entre la peste et le choléra, ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'un élu qui a été élu, qui justement est souvent élu par à peu près 25% de la population, a légitimité pour tout faire. Je voudrais surtout parler des procédures, parce que il me semble que c'est le fond du dossier, la procédure. Hein. Monsieur Mustière, tout à l'heure, a dit « Toutes les procédures ont été respectées, Monsieur Bontemps aussi. » Précisément, un des problèmes de notre pays, c'est la manière dont les procédures de débat public sont menées. On a l'apparence de procédures démocratiques, mais je peux vous donner vraiment des exemples qui montrent que nous sommes dans de la démocratie un peu Canada Dry. Et donc, on ne demande pas aux gens,
pour ceux qui se souviennent,
pour les jeunes,
ça ressemblait à l'alcool, mais il n'y en avait pas dedans.
Voilà, c'est cela. Parce que les procédures sont formellement respectées, mais en fait, elles sont faites pour que le projet qui a déjà été décidé soit validé au bout du compte.
Voilà, ça voilà, c'était en tout cas la question de cette idée d'un référendum local et de voir si effectivement les procédures avaient ou non été respectées. Venons maintenant sur le fond du dossier. Donc je rappelle que nous sommes en compagnie de Michel Mayol et Françoise Verchères qui s'opposent à ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et Gilles Bontemps et Alain Mustière qui eux y sont favorables. Alain Mustière, alors un des arguments qui plaide apparemment en faveur d'un nouvel aéroport, c'est celui de la saturation de l'aéroport de Nantes-Atlantique, c'est-à-dire celui qui existe actuellement, qui se trouve sur la commune que présidait autrefois Françoise Verchères.
Oui, il n'y a pas que ça. C'est un des aspects.
Ouais. Alors, c'est sur cet aspect-là.
Il y a l'aspect de la saturation.
La saturation, elle est aujourd'hui ou c'est une saturation qui est anticipée?
Elle est aujourd'hui. Il y a 135 jours de saturation, alors qu'il y a quelques années, il y en avait bien moins. Et pour dire, l'aéroport de Nantes-Atlantique, au mois d'août, c'est 500 000 passagers, par exemple. C'est autant que l'aéroport de Rennes sur toute l'année. Donc, on n'a qu'une seule piste. On a des installations qui sont saturées. On a des parkings qui sont saturés. Et surtout, on a le survol de la ville. Puisque plus de la moitié des vols, les avions, tout à l'heure en arrivant, là, tous les avions ce soir arrive en survolant ici, l'axe de la ville. En 2004, on a eu un avion qui, par miracle, ne s'est pas écrasé au centre-ville, parce que le pilote a réussi à refaire une manœuvre, mais il est arrivé en pleine nuit, enfin bon, etc. Et donc, c'est extrêmement dangereux. D'autre part,
l'aéroport n'est pourtant pas considéré comme un aéroport dangereux.
Et non.
Écoutez, il y a des phases, ça dépend ce que je vous dis. Il y a des catégories, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque catégorie d'aéroport, mais on a 40 000 passagers, 40 000 habitants qui sont survolés actuellement par la ville, et compte tenu de son développement, c'est 80 000 passagers, habitants de Nantes, qui vont être survolés. Et ensuite, on est au-dessus du lac de Grandlieu, un aspect classé à la fois par la loi du littoral, Et donc on a un certain nombre de phénomènes qui font que, oui, cet aéroport, il faut le déplacer.
Alors on va aller sur la question environnementale, de l'impact environnemental, mais sur la question en tout cas de la saturation. Donc ce que dit Alain Mustière, c'est de plus en plus de passagers, de plus en plus de trafic, et en plus une dangerosité des avions qui survolent la ville de Nantes. Ça, on ne peut pas nier que les avions survolent la ville de Nantes. Moi j'en ai vu passer effectivement cet après-midi, François Verchères.
Bien sûr, mais personne ne le nie. Ce sont effectivement les atterrissages qui survolent la ville de Nantes. Et s'il faut déplacer tous les aéroports qui survolent des zones habitées, je pense qu'il faut commencer par d'autres aéroports. Donc moi, je suis comme tout le monde, si vous voulez. Je préférerais que les avions ne tombent jamais. Je préférerais qu'ils ne survolent pas des zones habitées. Mais pourquoi n'a-t-on pas déplacé Toulouse, où le nombre de personnes concernées et survolées est beaucoup plus important, 10 à 12 fois plus qu'à Nantes.
C'est combien donc, aujourd'hui de personnes concernées par le survol ?
Alors, moi, je... La question, c'est le bruit, si vous voulez, mais le bruit de la mobylette est parfois supérieur à celui de l'avion. Donc voilà, donc la question du bruit, si vous regardez les cartes de bruit de Nantes Métropole, vous verrez que c'est le bruit routier qui est majeur dans cette agglomération. Jusqu'à preuve du contraire, on ne déplace ni les axes routiers ni le périphérique. Donc bien sûr qu'il y a du bruit. Après, ça n'est qu'une toute petite partie des avions qui survolent Nantes et nous avons fait des propositions pour que les trajectoires soient améliorées.
Ça, c'est la question de la saturation. Alors,
la saturation.
Peut-être Michel Mayol sur la saturation. Je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous travaillez, mais en tout cas, effectivement, avec un aéroport qui a de plus en plus de passagers, il faut bien faire quelque chose. Si on ne construit pas un aéroport, alors par exemple à Notre-Dame-des-Landes, ça veut bien dire qu'il va falloir agrandir l'actuel.
Absolument.
Alors, c'est Françoise Verchère qui répond.
Oui, je suis désolée pour la saturation.
Ah, pas de soucis.
Il n'y a pas de saturation. Il n'y a de saturation que si vous dites que vous ne voulez pas agrandir, que vous ne voulez pas faire des parkings en hauteur, que vous ne voulez pas construire une nouvelle aérogare. Or, nous avons prouvé qu'il y a l'espace pour le faire, qu'il suffit de vouloir optimiser cet aéroport pour qu'il puisse accueillir tous les passagers prévus à Notre-Dame-des-Landes. Et moi, j'ai envie de demander à ceux qui géraient l'aéroport de Nantes-Atlantique pourquoi ils refusent depuis si longtemps de faire les investissements nécessaires. C'est ce que j'appelle le syndrome Notre-Dame-des-Landes. Puisqu'on va partir, on ne fait rien ici.
Vous avez l'ancien vice-président du conseil régional qui était en charge des transports, Gilles Bontemps. Sur la question de la saturation, en tout cas.
La saturation, c'est une journée de saturation à Nantes-Atlantique, c'est 14 000 voyageurs. Il y a eu 135 jours de saturation en 2015. Il y en avait 70 en 2014. Les gens qui reprochent ou qui disent les chiffres de la DGAC sont faux, etc., ils sont vérifiés par l'avis. La déclaration d'utilité publique prévoyait 4 400 000 voyageurs. En 2020, les 4 400 000 voyageurs à 3 000 près sont atteints en 2015. Il y a 5 ans d'avance sur la DUP.
J'ai lu quelque part 6 millions de passagers prévus en 2030, par exemple.
Oui, bien sûr, mais peut-être ce sera plus, on ne sait pas aujourd'hui. Parce que 5 ans d'avance sur la DUP, ça veut dire quelque chose. La DUP, la déclaration d'utilité publique. Donc, je trouve que là, on a l'illustration que les prévisions de la DGAC, elles sont régulièrement très prudentes et elles sont là, bien dépassées.
Mais c'est peut-être élément de réaménager Nantes-Atlantique, justement.
Réaménager Nantes-Atlantique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconstruire l'aéroport de Nantes-Atlantique. Non. Ça veut dire ça. Ça veut dire fermer l'aéroport de Nantes-Atlantique pendant un certain nombre de mois. Mais Françoise, tu peux dire non, je sais que tu as l'habitude de faire ça, mais je veux dire avec beaucoup de clarté ici, le choix qui a été fait de déplacer l'aéroport, c'est à la fois de prendre en compte le développement important de cet aéroport, c'est un des aéroports qui se développe le plus au niveau européen depuis 10 ans. Il a doublé depuis 10 ans. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est de dire on a besoin dans ce territoire d'avoir un outil qui permet à la fois de dégager des espaces sur l'endroit où il est aujourd'hui, donc de le transférer, on parle bien d'un transfert, et donc de régler à la fois des possibilités de développement de l'emploi sur le territoire actuel, mais aussi de tenir compte des populations survolées, parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ce que disait tout de suite Alain Bustière, aujourd'hui c'est 42 000 personnes qui sont survolées, il y a aujourd'hui 50 000 mouvements d'avions par an, alors qu'on nous disait que c'était du pipeau, etc. Or 50 000 mouvements d'avions par an, c'est 25 000 à l'atterrissage aujourd'hui et 25 000 au décollage. Et si je vais au bout pour aller très vite, je veux dire que les Nantais doivent savoir, parce que tout le monde parle de l'aéroport, personne parle des Nantais. Et moi je conteste aux gens qui sont à Lyon ou ailleurs ou à Paris de décider à la place des gens du territoire, et le territoire impacté c'est l'Euro Atlantique. Eh bien sachez bien que si on laisse l'aéroport ici, compte tenu du fait que c'est le seul aéroport en Europe, voire peut-être dans le monde, en Europe en tout cas, qui a une piste dans l'axe du centre-ville, c'est le seul. Eh bien, ça veut dire que dans les années qui viennent, on passera à 200 vols par jour, c'est-à-dire à 60 000 vols par an. Et ça voudra dire un avion tous les 3 minutes au-dessus du cœur de la ville de Nantes à 200 mètres ou 300 mètres d'altitude.
Michel Malayol.
Oui, donc il faudrait peut-être remettre un petit peu l'environnement au centre du débat.
On pourra en parler.
Donc d'abord, dans votre introduction, vous avez parlé de la vie d'un certain nombre de personnalités, dont Rabhi. Pierre Rabhi. D'accord. Donc, si on regarde le bien commun,
parce que c'est le bien commun. Pierre Rabhi qui explique, en tout cas, c'est totalement contradictoire entre les engagements de la France pris au moment de la COP21 et le fait de construire un nouvel aéroport. Mais ça pourrait être n'importe où, d'ailleurs.
Donc, je voulais d'abord, concernant le territoire qui a été choisi, et les conditions dans lesquelles il a été choisi par rapport aux grenades dans l'environnement, par rapport au triptyque, éviter, réduire, compenser.
Le territoire qui a été choisi, c'est quoi? C'est une destruction pour vous d'un écosystème avec des espèces protégées?
Donc, naturaliste en lutte n'existe que pour effectivement mettre en évidence cette chose. Le territoire, les 1500 hectares de cette ZAD représentent un ensemble d'habitats qui sont d'une rareté à notre époque. Il y a à la fois donc le bien commun, l'eau, parce que c'est un territoire qui est complètement imbibé d'eau, 90% de zones humides et à cheval sur deux bassins versants, la Loire et la Vilaine. Une richesse en biodiversité, donc ça aussi c'est du bien commun, cette biodiversité. Alors, quand on parle de biodiversité, on a tendance à parler de liste d'espèces. Et donc, dans les mesures compensatoires, ça ne les gêne pas. Par contre, la vraie biodiversité, c'est X espèces, mais avec les interactions qui les relient les unes aux autres. Et donc là, on est face à un territoire qui est un bocage humide, avec une quinzaine d'habitats.
Parlons du lac de Grandlieu aussi.
Mais non, le lac de Grandlieu, une note...
Parce que pour les gens qui ne connaissent pas Nantes et les environs, il faut expliquer. Le lac de Grandlieu, donc, c'est un site Natura 2000, qui est un site protégé, qui se trouve à proximité de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique, et dont les partisans, dont vous faites partie donc à la Mustière du projet de Notre-Dame-des-Landes, disent justement... Notre-Dame-des-Landes, ça permettra aussi de protéger, d'assurer la protection de ce lac de Grandlieu, parce que sinon, il faudrait agrandir l'aéroport actuel et ça pourrait se faire au préjudice de cette zone, si j'ai bien compris.
C'est absolument, c'est tout à fait clair. Madame Verscher, d'ailleurs, lorsqu'elle était maire de Bouguenais, n'a eu de cesse soit de protester contre le bruit que faisait cet aéroport, en demandant d'ailleurs la fermeture la nuit. Donc, elle se préoccupait à l'époque de ses habitants et elle voulait absolument limiter l'activité de l'aéroport. On a des photos, on a des textes là-dessus.
Bon, ça, c'est les nuisances sonores, mais c'est pas forcément
Mais ce qui est... Ce qui est aussi extrêmement, extrêmement important. D'autre part, on a un site classé Natura 2000 qui, par le droit européen, est un site intouchable. C'est-à-dire tout ce qui peut se faire à côté de ce site doit faire l'objet d'une procédure lourde. Il y a deux procédures. Il y a la loi littorale.
Vous parlez du lac de Grandlieu, là.
Absolument. Et Natura 2000. Et donc tout ce qui doit se faire à proximité, agrandissement de l'aéroport, agrandissement de la piste, doit rentrer dans une procédure confrontée au droit européen. Lorsque nous étions à Bruxelles, le directeur de l'environnement a bien dit que à Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes n'était pas touchée par une zone Natura 2000 ni par la loi littorale. Donc, par rapport au lac de Grandlieu, à la zone du lac de Grandlieu, c'est des choses totalement différentes. Donc, on a un site qui est absolument à protéger parce qu'on ne le retrouve pas de la même nature qu'en France, alors que à Notre-Dame-des-Landes, on a un site qui n'est pas aussi naturel que
ça. Pour le pauvre parisien que je suis, je dois dire, me retrouve un petit peu ballotté entre deux arguments finalement qui sont identiques, enfin en tout cas dans les termes, c'est-à-dire que finalement, qu'on soit opposant, qu'on soit partisan de Notre-Dame-des-Landes, on met en avant la défense de l'environnement. Françoise Verscher, par rapport à ce lac de Grandlieu.
Si vous voulez, est-ce qu'on peut regarder ce que disent les scientifiques? Ça serait peut-être la seule solution. Non, monsieur Mustière. Monsieur Mustière.
Alors, Françoise Verscher, on vous écoute.
Que les choses soient claires. Le lac de Grandlieu, les scientifiques le disent, et l'ADREAL, service de l'État, le dit aussi.
Direction régionale de l'environnement.
Monsieur Mario,
avez-vous un scientifique, vous, qui dise que l'aéroport pose problème?
Juste expliquer aux auditeurs, je vous laisse poursuivre juste après Françoise Verscher, parce que je comprends à quoi vous faites allusion. Il y a eu, il y a quelques jours, dans la presse, dans le Canard enchaîné, révélation d'une note qui n'avait pas été publiée jusqu'à présent, donc je ne vais pas dire secrète, mais enfin en tout cas qui n'avait pas été publiée, qui date de 2014, de quelqu'un de cette fameuse Dreal, et qui considère que l'allongement de la piste de l'aéroport de Nantes-Atlantique ne présenterait pas de risque pour la faune, et qui dit même finalement cet aéroport-là, il nous a permis de protéger l'écosystème du lac de Grandlieu. Alors voilà, maintenant que c'est un peu plus clair, Françoise Verchères.
Donc cette note dit finalement la même chose que ce que dit le scientifique spécialiste du lac de Grandlieu,
à savoir qu'effectivement,
les oiseaux vivent très bien avec les avions, mais ne supportent pas la voix humaine. Par exemple, si vous allez au bord du lac, vous allez effrayer les oiseaux alors qu'ils ont absolument intégré l'aéroport. Par ailleurs, effectivement, le fait qu'il y ait un aéroport gèle l'urbanisation très proche à Saint-Aignan-de-Grandlieu et donc protège le lac dans ce sens que le problème du lac est un problème de qualité de l'eau. Et la qualité de l'eau, ou la mauvaise qualité, est liée à la pollution urbaine par l'urbanisation et les stations d'épuration qui parfois dysfonctionnent, et la pollution agricole. Donc l'aéroport n'a rien à voir. Enfin, je voudrais dire que optimiser Nantes-Atlantique n'oblige en rien à toucher au lac de Grandlieu, ni même à prolonger la piste, car en fait, l'aérogare est sur la commune de Bouguenay, qui n'est pas touchée par la loi littorale, ni par la zone Natura du lac de Grandlieu. Donc, tout ce que racontent nos pro-aéroports qui se soucient aujourd'hui des oiseaux, ce qui est étonnant, parce que c'était pas leur habitude, est mensonger, je l'affirme.
Juste une petite question, peut-être à Michel Mayol, imaginons que l'aéroport de Nantes-Atlantique, finalement, Nantes-Atlantique, c'est bien ça, soit transféré à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ça remettrait en cause la protection du lac de Grandlieu? Parce que, si j'ai bien compris, il y a aussi certains opposants à Notre-Dame-des-Landes qui disent, finalement, si on enlève l'aéroport, on risque de vouloir en faire une zone industrielle qui irait peut-être grappiller, justement, sur ce lac, et ça le mettrait encore plus en danger. Donc, il y aurait une forme de double peine du point de vue environnemental. Est-ce que là aussi, j'ai bien compris, Michel Mayol?
Des craintes, c'est que tout un territoire qui soit proche du lac de Grandlieu fasse l'objet de projets d'urbanisme. Et comme a dit Madame Verchères tout à l'heure, les oiseaux ont toujours vécu avec les avions. Par contre, ce que nous disent...
Enfin, pas avant l'existence des avions, quand même.
Voilà. Et puis, finalement, ce qui dérange la faune, c'est lorsque le bruit s'arrête ou lorsqu'il y a quelque chose de bizarre. Quand vous regardez les agriculteurs, quand ils sont derrière, quand ils sont en train de labourer leur champ, et que vous voyez tous les oiseaux qui sont derrière à rechercher les petites bêtes qui vont sortir... Si le tracteur s'arrête et si l'agriculteur descend, les oiseaux, ils partent.
Oui, mais du coup, les oiseaux de Notre-Dame-des-Landes, ils s'accommoderaient très bien des avions.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du territoire de Notre-Dame-des-Landes.
Mais c'est pas du tout la même chose.
Parce que là, on ne va pas avoir l'occasion
Allez-y, mais voilà.
Il n'y a pas d'oiseaux.
Faites peut-être juste des interventions un petit peu moins longues les uns et les autres. Allez, encore Michel Mayol et ensuite Gilles Bonton, c'est promis.
D'accord, merci. D'abord, concernant le triptyque éviter, réduire, compenser. Le choix de Notre-Dame-des-Landes a été lancé dans les années 92. 9 sites étaient pressentis. Puis, en 97, la DDE demande une enquête aéronautique.
Et là, ne refaites pas tout l'historique,
sauf que
c'est
finalement, Notre-Dame-des-Landes va sortir parce que c'est un plateau et proche d'une agglomération. Et la seule contrainte environnementale qui a été étudiée à ce moment-là, c'était le bruit. Et comme c'est une zone qui était faiblement urbanisée, tout était bon pour un aéroport. Sauf qu'on n'a pas, et maintenant avec la prégnance de la protection de la nature qui est arrivée avec Natura 2000, avec Directive Habitat et la loi sur l'eau, on s'aperçoit qu'il y a une prégnance et qu'il faut en tenir compte.
Alors, Gilles Bontemps.
Donc, éviter qui a été choisi.
D'abord, moi, j'ai le souci des oiseaux, c'est pas nouveau. Des poissons, je suis un pêcheur. Ouais, mais tu peux rigoler, mais c'est comme ça. Mais j'ai d'abord le souci des hommes et des femmes qui vivent dans le territoire. Et je trouve qu'on fait bien peu de cas de tous ces gens-là. Et je vais donner deux ou trois éléments. Le maintien à Nantes Atlantique, c'est aussi un vrai sujet pour les habitants d'une commune qui s'appelle Saint-Aignan-de-Grandlieu. Et la note dont vous avez fait référence de la Dréal, il y a un argumentaire qui vient d'être envoyé par le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, Jean-Claude Lemasson, au préfet pour corriger un certain nombre de choses erronées publiées dans la note dont il a été question.
Alors Saint-Aignan-de-Grandlieu, ça se situe où ?
Ça se situe entre la piste et le lac de Grandlieu.
Au sud de
Grandlieu. Et donc, le maire de Grandlieu et les habitants de la ville de Saint-Aignan-de-Grandlieu sont, eux, dans une situation dramatique si l'aéroport y reste là. Pour une bonne raison, c'est que d'abord, il ne peut pas, les règles d'urbanisme font que les gens ne pourraient plus toucher à leur habitat, etc. Enfin, il y a un ensemble de règles d'urbanisme qui font que l'extension de la piste conduit à un certain nombre de choses. Tout le monde, personne n'en parle. Donc, je ne vais pas faire de polémique ici. Premier élément. Deuxième élément, les craintes sur « Ah ouais, mais si l'aéroport s'en va, il va y avoir des entreprises partout. Ben, » je voudrais bien qu'il y ait des entreprises partout et les chômeurs, ils voient bien qu'il y ait des entreprises partout. Or, ce qui est prévu quand l'aéroport part, parce que j'espère bien qu'il sera déplacé, qu'il sera transféré, ce qui est prévu, c'est justement un transfert de 2000 emplois, qui sont les emplois de l'aéroport, sur Notre-Dame-des-Landes, où il n'y en a pas, et la création de 5000 emplois autour d'Airbus, autour des filières qui sont les matériaux composites, etc. Et donc qui sont, eux, ciblés sur des terrains qui ont cette vocation, qui sont des terrains libérés par l'aéroport. Ça figure dans les plans d'urbanisme. C'est clair au niveau de Nantes Métropole qui a travaillé sur ces sujets-là avec l'ensemble des maires des territoires. Et donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Juste sur la question de ces estimations en termes d'emploi, elles viennent d'où ces estimations et est-ce qu'elles sont vraiment fiables, Gilles Bontemps?
Eh ben écoutez, il y a des entreprises aujourd'hui qui attendent pour s'implanter mais qui ne peuvent pas le faire en raison de la proximité de l'aéroport parce qu'on ne peut pas s'implanter dans les conditions actuelles. Deuxième élément, je ne parle là que des emplois à créer avec le départ. Et je dis, dans le même temps, il y a aussi à intégrer les emplois de la construction. 4 500 000 heures de travail sur la construction. Donc je veux bien que tous les gens qui ont du boulot, qui sont en retraite ou qui ont leur retraite, petite ou grande, peuvent dire « Ah ouais, mais il ne faut pas ». Mais ceux qui n'ont pas de boulot, ils en attendent. Et moi, je suis pour aussi qu'on intègre ces éléments-là.
Bon, dans une période de chômage de masse, Françoise Verchères, absolument, est-ce qu'on peut dire que question-là, Notre-Dame-des-Landes, ça créerait davantage d'emplois qu'un réaménagement de l'actuel aéroport?
Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui vient d'être dit pour la raison suivante. Le transfert de l'aéroport va d'abord détruire des emplois agricoles et une structure agricole à Notre-Dame-des-Landes. Par ailleurs, monsieur Mustière, je ne vous ai pas beaucoup interrompu, me semble-t-il. Par ailleurs, le transfert va effectivement transférer des emplois, les 1800-1900 emplois de l'aéroport. Il est même probable qu'avec un aéroport modernisé, plus petit que l'actuel aéroport, c'est ce qu'a aussi montré le Canard enchaîné, il y aura peut-être moins d'employés pour faire tourner cet aéroport.
Parce que ce sera plus automatisé.
Absolument. Mais surtout, là où je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit monsieur Bontemps, c'est que, d'une part, les emplois dont il parle, qu'il faut créer 5000 emplois autour d'Airbus, précisément, il y a de l'espace. Et je suis prête tout de suite à ouvrir la carte, la photo aérienne, pour lui montrer. Bouguenay n'a aucun problème pour accueillir ces emplois qui viendraient autour de l'aéroport. Enfin, j'ajoute que Airbus, le maintien même d'Airbus n'est pas du tout envisagé dans ce projet qui est censé être mûr depuis 50 ans, puisqu'en réalité,
Airbus se trouve à proximité de l'actuel aéroport.
L'usine où naissent tous les Airbus, c'est l'usine de Bouguenay, où le caisson central et le radôme de l'avion, la tête de l'avion. Cette usine Airbus a besoin d'une piste, et donc on est censé garder la piste. On ne sait toujours pas qui paiera le fonctionnement de cette piste. Personne ne l'a dit. L'État a dit que ce n'était pas lui. AGO, Aéroport du Grand Ouest, a dit que ce ne serait pas lui. Je n'ai jamais encore lu sous la plume du directeur d'Airbus qu'il paierait la piste. Et les collectivités locales, il n'y a que le département qui a dit qu'il paierait. Donc, on a une usine Airbus avec plus de 2000 emplois qui a besoin de la piste, qui doit rester. Donc, c'est un drôle de transfert et c'est un drôle de dossier. Enfin, les emplois du chantier. Monsieur Bontemps parle en millions d'heures. Bien sûr que dans une période de chômage, ça donne évidemment envie. Voilà. Mais c'est un grand chantier sur 4 ans. Ça fait 750 équivalents temps plein pendant 4 ans. Ce ne sont pas des créations. Vous savez bien que les entreprises arrivent avec leurs employés. Moi, je pense que l'économie d'argent public d'argent public, parce qu'on n'en parle pas pour l'instant, qui pourrait être faite en optimisant Nantes Atlantique, permettrait de construire et donc de lancer des chantiers. Il me semble qu'on manque de maisons de retraite, il me semble qu'on manque de crèches, il me semble qu'on manque de beaucoup d'équipements publics qui donneraient du travail et qui seraient plus d'utilité qu'un nouvel aéroport.
Je ne crois pas d'ailleurs qu'on a donné jusqu'à présent le coût de l'estimation de l'aéroport Notre-Dame. 560 millions d'euros, c'est ça, la
musclée. 560 millions d'euros, avec une participation de l'État de 100 millions d'euros, qui est d'ailleurs récupérée par la TVA. Pour l'État, c'est une opération blanche.
Non.
Donc, je pense que cet aéroport est nécessaire pour l'Ouest. Il est nécessaire pour le développement et le rayonnement de l'Ouest économique. Et quand Mme Verchère sort de tels arguments, en même temps qu'ils peuvent être gentils comme ça, elle prône en permanence le non-respect, la désobéissance, le sabotage et à la guerre. Oh, propos employés ici le 22 septembre 2015. Donc, le projet démocratique, il n'existe pas dans les propos de Mme Verchère. Elle habille un ensemble en disant il ne faut pas construire cet aéroport, mais on est prêt à aller dans la subversion. Ce qui se passe aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD, c'est bien ça.
Vous êtes prête à aller jusqu'où, Françoise Verchère, juste pour vous laisser répondre.
Moi, je ne peux pas entendre cela.
Moi non plus.
Alors, je ne peux pas entendre ce que vous dites, Monsieur Mustière, pour la simple raison que je ne suis pas une violente et ce que vous dites est totalement faux. Simplement, ce dossier est fondé sur des mensonges. Depuis le début, il est fondé sur des mensonges.
Mais bien sûr.
Absolument.
Et ce sont les autres qui mentent. Vous ne mentez jamais.
Eh bien, Monsieur Mustière, donnez-moi les preuves que j'ai menti quelque part.
Moi, vous encouragez la violence. Vous encouragez la violence en permanence.
Alors,
plus il y a de gens attaqués, véhicules de gendarmerie détruits, entreprises attaquées.
Je félicite.
C'est pas le cas ce soir, en tout cas.
Bien
pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal.
Écoutez, moi, je trouve incroyable qu'on ne parle jamais de la délinquance en col blanc. Monsieur Mustière, on pourrait en parler. Elle existe, me semble-t-il, et elle est autrement violente que celle que vous dénoncez. Mais moi, je veux qu'on parle du fond. Et sur le fond, votre dossier est mensonger et mal bâti.
Ben voilà. Mensonge d'État.
Oui, absolument. C'est un mensonge d'État.
Alors, vous voyez mal partout.
Michel Mayol, du collectif Naturaliste en lutte. Voilà. Il nous reste 3 minutes.
Non. On va parler d'environnement un petit peu.
Ah ben, on en a déjà parlé.
Et de toute façon, il faut être un peu pédagogique par rapport à nos auditeurs. Donc, on en est revenu à la violence.
Justement,
elle existe, il faut en parler. Vous pouvez pas dire on est vert. On n'est pas hors sol.
Maintenant, on a parlé des insuffisances des études. D'accord ? Les naturalistes en lutte, je n'ai pas le temps de développer, mais ont largement démontré la qualité du truc. Donc, où ça pêche ensuite le dossier, c'est pour les mesures compensatoires. Les mesures compensatoires. Le tribunal administratif a tranché sur une procédure, mais il est incompétent concernant la notion de mesures compensatoires. Le Premier ministre a demandé l'avis d'un collège d'experts. Le collège d'experts a donné un avis totalement négatif. Le Conseil national de la protection de la nature a donné un avis totalement négatif concernant la méthodologie utilisée. Ce qui fait que les promoteurs de ce... Je continue.
Non, mais Michel Bayon, il nous reste deux minutes et je voudrais encore...
Les promoteurs, si vous pouvez, en faisant une évaluation grossière, sont gagnants sur les deux tableaux. D'abord, premièrement, ils ont économisé sur le temps de travail pour l'étude d'impact, et deuxièmement, ils vont économiser aussi sur la qualité des mesures compensatoires qui sont absolument pas
Je précise d'ailleurs qu'il y a encore des études en cours et qu'il y a un rapport qui est attendu pour fin mars qui a été commandé par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. D'un mot, Gilles Bontemps, parce qu'on est à la fin.
Je veux juste dire une chose, je ne peux pas entendre ce projet mensonger, etc. Les collectivités qui sont associées à ce projet depuis le début, les gens ne sont pas des fous furieux, les élus ne sont pas des imbéciles, ils ne votent pas n'importe quoi, ils ne font pas n'importe quoi. Donc, premier élément. Donc, je ne peux pas entendre ce type d'argument, parce que ça, c'est du péjoratif. Le financement d'un projet qui n'a pas 50 ans, contrairement à ce qui a été dit sur les ondes de France Bleu par José Beauvais ce matin, il n'a pas 50 ans, il a été annoncé ici par Jean-Claude Guesso en 2000. Donc on est en 2015. Le financement, les collectivités mettent au total sur ce projet 115 millions d'euros. Pour la région des Pays de la Loire, par exemple, ça représente 1,6% des engagements financiers de la région. Donc on ne peut pas parler de choses excessives.
C'est déjà
retour à bonne fortune.
Juste d'un mot très très rapide, puisque vous l'entendez, c'est le générique de fin, ça passe très vite. Si jamais le référendum local a lieu, est-ce que les uns et les autres vous accepterez le verdict qui sortira des urnes? Juste oui ou non, Alain Mustière.
Ah ben, je sais pas.
Vous savez pas. Gilles Bontemps.
Gilles Bontemps. Attendez, la question.
Non, donc ça veut dire que vous savez
moi
pas.
Moi, je l'accepte si ce sont les gens concernés qui votent. Non, non, j'accepte le verdict si ce sont. Attendez.
Non, j'accepte le verdict. Non, on est à la fin, c'était vraiment une réponse par oui ou par non.
Alors, j'accepte le verdict si le territoire concerné est celui des gens concernés.
Pour répondre par oui ou par non, Michel Mailleul. Non, ça sera non. Et Françoise Verchères.
Moi, je ne sais pas, parce que si c'est la totalité des gens concernés, c'est la France.
Mais la France, nous, on vote pas pour le Grand Paris, Madame Verchères.
Ah, mais vous payez pourtant.
Ouais. Bon, je crois qu'on va.
Tout contribuable va payer.
On n'est pas sorti d'affaire.
Ouais, et non, je crois qu'on n'est pas parti de Nantes. D'affaires. Il faudrait peut-être une deuxième, voire une troisième émission pour en discuter, aller savoir. On reviendra peut-être vous voir. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Alain Mustière, Gilles Bontemps, Françoise Verchères, Michel Mailleul. Vous pouvez commenter cette émission sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à l'équipe du Grain, en particulier à Fanny Richet, à notre réalisatrice Anne Comilac. À la prise de son ce soir, il y avait Miguel Linares. Je voudrais adresser également un grand merci à toutes les équipes de France Bleu, Loire-Océan, ainsi qu'à Véronique Robert-Hotte qui nous a aidé à monter ce plateau. Demain, y a-t-il une tyrannie de l'innovation? Sujet radicalement différent.